qu'il ait mis 1, 2, 3, 4 auteurs et une traductrice. Le thème est passer de l'écriture pour soi à la publication. Alors, on va faire un petit tour de table pour présenter les auteurs, en commençant par l'invitée étrangère, Alexandra Ivy. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alexandra Ivy, elle est auteure d'une série qui s'appelle Les Gardiens de l'éternité, que nous considérons comme faisant partie de la Lit-Lit, puisque c'est le mot qui n'existe qu'en France, mais qui est de l'urban fantasy. Elle est passée des études sur le théâtre à l'écriture, et puis elle va pouvoir nous dire comment s'est passée cette arrivée dans l'écriture pour elle. Ensuite, Karina Rosenfeld, que les imaginales connaissent bien, auteure de Lucille et les dragons sourds, d'Oregon, l'Acadie Libre-Monde, plus récemment Phoenix, prix 2009 pardon, des imaginales collégiens, édité chez La Talente, chez Collection R, chez plusieurs éditeurs. Elle va pouvoir nous parler de ses rapports avec le passage à l'édition. Yvan Bidiville, qui est un auteur suisse, étranger aussi, en fait, qui a publié une première série en 3 tomes qui s'appelle Nouvelles Références, qui a commencé chez Publibook, il me semble. Et qui a un nouveau roman qui s'appelle 33e itération chez Rivière Blanche. C'est un jeune auteur, il va pouvoir lui aussi nous dire comment il a commencé. Et Philippe Bard, qui lui a l'avantage d'avoir deux casquettes, celle d'auteur, de nouvelles d'abord, puis de romans, de nouvelles et de romans à quatre mains avec Sylvie Miller, et aussi la casquette de directeur de collection, puisqu'il est directeur de collection chez à la Rivière Blanche. Voilà, alors le titre, moi, m'a un petit peu interpellée, passer de l'écriture pour soi à la publication. Est-ce qu'on écrit pour soi ? Est-ce que vous avez commencé par écrire pour vous ? Qui est-ce qui veut se lancer ?
Moi, j'ai jamais écrit pour moi. J'ai toujours écrit, même quand j'ai commencé à écrire mes premières histoires quand j'avais 8 ans sur un cahier de brouillon, j'écrivais pour que ma mère le lise, mon frère le lise. Pour moi, c'était important que mes histoires vivent. Et donc, pour vivre, il fallait qu'il y ait des gens qui les lisent. Et j'ai toujours eu envie de partager mes histoires, même plus tard, quand j'ai écrit des histoires plus complexes. Avant de passer à la publication, je distribuais les fichiers à qui mieux à tous mes amis qui avaient envie de le lire. Donc j'ai jamais été du genre à garder l'écriture pour moi. J'ai jamais considéré non plus que c'était une thérapie. C'est juste l'envie d'écrire des histoires. Et les histoires, pour exister, il faut qu'elles soient vivantes aux yeux des gens et des lecteurs. Donc j'ai jamais écrit pour moi. Je ne savais pas si je serais publiée un jour, mais quoi qu'il en soit, même si je n'avais pas été publiée aujourd'hui, je pense que je continuerai à partager les histoires que je continue à écrire pour le plaisir avec les gens que ça intéresse autour de moi.
Alexandra ?
First of all, thank you for inviting me. I'm very, very happy to be here. I actually started as a playwright. I was a theater major, so I started writing plays, and so it was very much for an audience, a live action audience. And even today, when I write my books, I still write them in play format first, and then I layer in the action afterwards.
Alors merci beaucoup pour la question. Donc c'est vrai, j'ai tout d'abord commencé par étudier le théâtre, j'ai commencé par écrire des pièces de théâtre, donc j'écrivais pour un public et un public en direct qui viendrait voir mes pièces jouer. Donc aujourd'hui je suis encore influencée par ces études parce que je commence toujours par écrire mes romans sous forme de pièces de théâtre. Donc je commence par les dialogues et après c'est après que j'insère les descriptions. Donc je suis toujours très influencée par ces études.
Est-ce que tu as écrit pour toi ?
En fait, moi, oui, j'ai écrit pour moi. Mais j'ai toujours eu dans l'idée de publier, mais j'avais toujours dans l'idée de faire quelque chose qui me plaisait à moi en premier. J'ai commencé quand j'étais aux études, au Poly. C'était assez exigeant, j'ai envie de changer d'air, donc j'ai fait une trilogie de fantasy qui m'a permis de me défouler vraiment. C'était un peu le défouloir. C'est le livre dont je suis le héros, donc c'était. C'est très bien, je ne m'en cachais pas, mais dans l'idée de faire quelque chose d'assez bien, d'assez exigeant pour pouvoir le publier. Et puis en fait, je continue vraiment dans cette voie. Dans l'idée, j'ai fait un polar d'anticipation, c'est un peu difficile à caser, mais en fait, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie. Et puis, j'ai l'impression d'écrire pour moi, mais d'être assez exigeant pour que ça plaise aux autres. C'est l'idée.
Et moi, j'ai commencé à écrire parce que ce que je lisais, je trouvais que c'était pas bon. Donc je me suis dit, tu vas écrire mieux. Et je me suis trompé parce que c'est pas facile d'écrire mieux. Donc j'écrivais, moi non plus, j'écris pas pour moi, j'écris pour les autres. Parce que je trouve qu'écrire pour soi, c'est un peu narcissique. Et puis quel intérêt que ça, d'écrire pour soi? Alors on peut parler d'une psychanalyse si on veut, ça c'est une possibilité. Mais c'est quand on écrit, vraiment on écrit pour les autres, pour faire partager ce qu'on a envie d'écrire, ce qu'on aime. Donc moi j'écris surtout pour les autres. Et avec mon autre casquette d'éditeur, j'essaye aussi que, pareil, j'essaie de publier pour les autres. Donc je n'écris, non, moi j'écris et ni l'édite, ça serait assez pire encore, mais je n'écris pas pour moi et je n'édite pas pour moi.
Bien, alors donc, comme on a établi que quasiment aucun de vous n'écrit pour lui tout seul, ben donc vous ne tenez pas de journaux intimes, ça semble le cas. Quel est le déclic, quel moment, quel besoin vous fait envisager le passage à la publication, justement? On écrit, on pense qu'on est suffisamment bon. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance et qu'on se dit il est temps d'envoyer mon manuscrit, il est temps que d'autres me lisent?
La gloire. On écrit pas contre le manuscrit, on va mettre du temps, un an, deux ans, trois ans pour écrire. On ne sait pas si le manuscrit est bon. C'est-à-dire que personnellement, moi, quand on écrit, je ne sais pas s'il est bon. Donc on a besoin du regard des autres. Et le premier regard des autres, c'est à la limite le regard de l'éditeur. Et là, on part à la chasse à l'éditeur. Alors ça, c'est long, c'est dur, c'est tout ce que l'on veut. C'est très très dur aujourd'hui. Parfois, je dis qu'il y a plus en France, qu'il y a plus d'auteurs que de lecteurs, donc il y a une loi de l'offre et la demande. Et quand un éditeur reçoit 500 manuscrits, il n'en publie que deux, c'est très dur. Donc c'est là qu'il y a, à mon avis, le passage le plus dur, qui est le passage de l'écriture à l'édition. Même si maintenant, il y a des moyens modernes où on édite plus facilement qu'il y a 20 ans, où ça revenait cher. Donc en tant qu'auteur, je veux dire que la chasse à l'éditeur, ça représente le premier passage, la première marche vers la gloire. Et c'est pas évident. Il faut avoir une armure, il faut savoir se blinder, il faut avoir accepté les 50 lettres de refus. Et après, on se pose la question, mais ce que j'écris, c'est pas bon alors? Et là aussi, c'est très difficile d'accepter ça, de se dire, c'est pas bon. Pourquoi un livre est bon, pourquoi un livre est pas bon, ça c'est toujours un mystère. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui est personnel en soi, mais qui après, on est vers des centaines, des milliers de personnes, et il faut que tout le monde l'aime. Et là aussi, c'est la question primordiale de l'auteur, est-ce que ce que j'écris, c'est publiable ou non? Et là, c'est les auteurs, on est face à ce mur de l'édition.
Alexandra, peut-être que vous pouvez nous dire quel a été votre parcours, qui est sans doute un peu différent aux États-Unis que ce qui peut se passer en France.
It's very competitive. It's very competitive in America. There's a lot of writers trying to get published, just like here. And you have to be, I agree, thick-skinned, and you have to be willing to accept rejection. And sometimes you have to be willing to accept your story isn't right for the right time, maybe later, maybe, you know, you've missed the market for that. And you have to be willing to stick with it. It took me 10 years to get published from the time I first started. And it was a long 10 years for me, but it made me a better writer. And it made me better prepared because I learned the business part of writing, which is important for a published author.
Il y a énormément de concurrence aux États-Unis dans le marché de la littérature. Il y a énormément d'auteurs, comme en France d'ailleurs, qui souhaitent être publiés. Et je suis d'accord qu'il est important de se carapacer, de se blinder, parce que ce n'est pas facile de survivre à tous ces refus. Et peut-être que ce que vous avez écrit, il faut avoir confiance en vous-même, parce que peut-être que ce que vous avez écrit ne marche pas aujourd'hui et marchera plus tard. Peut-être que ce n'est tout simplement pas la bonne époque pour ce que vous avez écrit. Donc il faut garder confiance. Dans mon cas, ça a été un processus qui m'a pris 10 ans, donc 10 longues années avant d'être publiée. Mais je pense que ça a été bénéfique, parce que c'est ce qui a fait de moi une meilleure auteure. Je n'ai jamais arrêté d'essayer de m'améliorer. Donc je suis devenue une meilleure auteure et j'ai aussi mieux compris le marché dans lequel on évolue. voulu mieux compris ce qui se passe en littérature. Donc voilà, il ne faut pas abandonner.
Karina, Yvan, Alexandra vient nous parler de 10 ans. Pour vous, est-ce que ça a été aussi long?
En fait, j'ai mis du temps avant d'envoyer un premier manuscrit surtout. Donc certainement, je manquais de confiance en moi. J'avais le doute de me dire, est-ce que ce que j'écris, c'est suffisamment bon? C'est pas que j'avais peur du rejet, mais c'est juste de se dire, je vais pas faire perdre du temps à des éditeurs avec ce que j'écris, tout simplement. Et puis, comme je faisais lire mes histoires à mes amis, ils ont beau être mes amis, ils ont été suffisamment objectifs pour m'encourager vraiment, en me disant, vas-y, essaye au moins, tu vas voir, ça marchera peut-être. Moi, par contre, ça m'a pas pris 10 ans, j'ai envoyé un manuscrit par la poste et j'ai été publiée tout de suite.
La vie est injuste, on le sait.
Je suis désolée.
Alors, j'ai pas eu autant de chance. Ça avait pris à peu près 10 ans aussi, jusqu'à la publication chez Rivière Blanche, avec Philippe Barbe. Avant ça, il y avait la publication à compte d'auteur, mais c'est largement moins exigeant. Donc, ouais, c'est pas le même genre de victoire. Et puis, c'était bien, ça m'a appris la patience, un peu. Et c'est vrai que ça a été assez difficile. Mais en rencontrant des gens, on m'a dit de venir ici, j'ai rencontré d'autres auteurs, des éditeurs, et puis ensuite on apprend justement quelles sont les ficelles, comment est-ce qu'on présente son manuscrit, on a un peu mieux idée de ce qui se passe dans le milieu, et puis c'est vrai que ça c'est très utile aussi, ce qui est logique.
Justement, parlons d'une étape que peut-être les lecteurs n'envisagent pas ou n'imaginent pas, c'est le moment de l'édition, mais de l'édition au sens anglophone du terme, c'est-à-dire le moment où la personne qui vous édite corrige votre manuscrit, vous propose des améliorations, vous propose des changements. Est-ce que ça aussi, c'est une manipulation difficile, une remise en cause de l'ego? Comment ça se passe pour vous?
Pour moi, c'est rassurant. Je trouve qu'on a besoin d'un garde-fou. Quand on écrit, on est dans notre délire, hein. On écrit notre histoire, on se laisse aller au fil de notre imagination, on a nos personnages, et on a vraiment le nez dedans, on n'a pas tellement de recul sur ce qu'on écrit, ou alors il faudrait laisser tomber le manuscrit pendant des mois et reprendre bien après pour se dire « j'ai écrit ça, j'avais oublié ». Et je trouve que l'éditeur est vraiment indispensable pour pouvoir relever toutes les incohérences, tout ce qui ne va pas, et parfois nous calmer aussi un petit peu en disant « non mais là, ça ne va pas ». Et moi, je trouve que c'est indispensable. Et moi, ça me rassure de savoir qu'il y a un professionnel qui va lire mon manuscrit, qui va me dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et me permettre de l'améliorer pour que quand je présente le livre au lecteur, après, tout le monde ne peut pas aimer, ça fait partie du jeu, mais qu'au moins on se dise qu'on a essayé de présenter le produit le meilleur possible. Voilà. Et après, chacun, le livre vit sa vie. En fonction des goûts de chacun et des sensibilités de chacun. Mais voilà, je trouve que le processus de construction du livre accompagné de l'éditeur est vraiment, enfin, à mes yeux, quelque chose de rassurant. On est une vraie équipe.
Philippe, l'éditeur fait partie de l'équipe?
Oui. Moi, j'ai en plus un avantage sur vous, c'est que j'écris avec une autre personne, écrit à quatre mains. Quand on écrit à quatre mains, eh bien, il faut mettre son ego dans la poche avec un mouchoir. Il faut accepter que l'autre vous dise ce que tu écris n'est pas bon, et encore plus fort, il faut savoir dire à l'autre ce que tu écris n'est pas bon. Donc quand on écrit à quatre mains, on a déjà ce premier travail de là, que fait l'éditeur. Après moi, en tant que directeur de collection, je le fais un peu, je ne suis pas professionnel, donc je le fais un peu, je l'ai fait un peu avec Yipa. Là c'est pareil, c'est aussi très difficile de ne pas être l'auteur du roman que nous propose l'auteur. Il faut quand même garder un recul. On va pas, voilà. Et donc ça, c'est pas évident. Par contre, moi, c'est pareil, en tant qu'auteur, je veux dire, on peut tout me dire. Je veux dire que quand j'écris avec Sylvie Miller, elle me dit tout. Et j'en prends plein la figure. Et donc, c'est vrai que, mais le travail d'éditeur est quand même très important au niveau du roman, mais aussi important au niveau de la maquette, au niveau de l'illustration. Et je dirais que le plus dur, c'est pas de travailler le roman, c'est écrire le quatrième de couverture.
Alexandra?
Actually, unbelievably, in the publishing world, have been with the same editor for 15 years. So we've worked out a system where he does an overall, because I have an ongoing series, so he keeps track of the overall story arc, so we keep track of that. But individual editing for each book, he's very, very light on, because after 15 years, I know exactly what he's going to say, you know, before I send it in. So now I'm at a point where I do very little editing except for in the overall for the storyline.
Alors dans mon cas, j'ai une énorme chance, c'est-à-dire que je travaille avec la même maison depuis 15 ans, et donc nous avons un système qui est tout à fait au point, c'est-à-dire que j'ai une série, et il suit exactement ce qui se passe, et donc il suit le fil rouge. Alors les petites modifications qu'il me demande d'apporter concernent habituellement le fil rouge, et il n'y a pas trop de changements que je doive apporter au niveau de l'écriture, parce qu'au bout de 15 ans, je sais exactement ce qui va lui plaire et ce qui ne va pas lui plaire, donc j'essaie au départ de faire un travail qui ne touchera pas trop. Mais bon, c'est vrai qu'au bout de 15 ans, on a l'habitude de travailler ensemble, donc il y a moins de corrections.
Yvan, vous avez votre éditeur pas loin, donc attention
à ce que vous dites. Je ne peux pas dire exactement ce que je pense. Mais pour revenir à l'étape d'avant, c'est vrai que quand on commence à écrire, on fait lire à des amis, et puis on a des avis qui reviennent, et souvent ils ne vont pas jusqu'au bout des choses parce que les amis ne sont pas éditeurs. Et puis c'est vrai qu'on a de la peine à accepter, j'avais peut-être un peu de peine à accepter au départ, puis avec le temps, avec l'habitude et le travail, on se rend compte que c'est tout le temps bénéfique d'avoir du retour. En fait, des fois, on entend des choses qui ne correspondent pas à notre idée, puis c'est pas grave. D'ailleurs, il y a des remarques que Philippe m'a faites où j'étais pas d'accord, mais en général, la plupart étaient vraiment très judicieuses. Et c'est aussi celle. J'ai un atelier d'écriture avec lequel j'ai revu une bonne partie du roman avant de le proposer aux éditeurs. Et c'est vrai que là, c'est une énorme plus-value. Et c'est des exercices super intéressants, et aussi de critiquer les autres, parce que ça permet en fait d'avoir une réflexion sur le fait d'écrire, sur les idées qui sont présentées, la façon de les présenter. Et c'est vraiment très bénéfique. Et donc, j'ai publié sans éditeur, c'est vrai que sans avoir d'édition faite sur le texte réellement pour ma trilogie à compte d'auteur, il y a une grosse différence au niveau du produit final. Mais c'est une différence qu'on voit surtout quand on a l'habitude de corriger et d'écrire.
Je pense que c'est aussi le meilleur moyen pour apprendre le métier d'auteur. En tout cas, quand on envoie son premier manuscrit, on envoie un manuscrit, on dit bon, ça doit être à peu près comme ça qu'on écrit un bouquin. On ne sait pas, on n'a pas de cours, il n'y a pas d'études, on le fait pour plaisir. Et donc on voit comment c'est écrit dans les bouquins des autres qu'on a lus. Il y a des chapitres, il y a des paragraphes, il y a des dialogues, d'accord, tout ça, je fais pareil. Et en fait, on n'en sait rien. Donc heureusement que l'éditeur est là, et au fil des livres qui sont publiés, on en apprend un petit peu plus. On découvre des défauts et des types d'écriture qu'on ne relève pas nous-mêmes, hein, que l'éditeur va relever. Et c'est vrai que même si je travaille avec plusieurs éditeurs différents, j'avoue qu'au fil des manuscrits, j'ai moins de corrections parce que j'ai appris le métier au fil des livres qui sont publiés. Et ça fait de moi un meilleur auteur au final, enfin j'espère en tout cas.
Et justement, vous avez tous les quatre donné des informations différentes. Quelles sont les différentes techniques qu'on peut envisager? Yvan, vous nous avez parlé d'ateliers d'auteurs. Philippe, d'écriture à quatre mains. Karina, je crois savoir que vous écrivez plutôt seule. Quel est pour vous, Alexandra, je ne sais pas comment vous écrivez. Donc, quelle est la technique qui vous semble la plus efficace? Est-ce qu'il y en a une, tout simplement, ou est-ce que ça dépend de la sensibilité de chacun?
Ben, si on le savait, on écrirait tous très bien. Non, je ne sais pas. Là, j'avoue que je ne sais pas du tout. Je veux dire que d'abord, on écrit, c'est comment on le ressort. Premier point. Après, on va travailler sur le style. On va essayer de voir qu'on n'a pas mis trop de queue, de verbes faire, bon, des choses comme ça, que ça soit fluide. Et après, c'est vrai qu'il faut le regard extérieur. Moi, je sais que j'ai besoin du regard extérieur de quelqu'un, toujours. Parce que moi-même, maintenant, même après 20 ans, en écrivant 8-10 livres, je ne sais toujours pas si ce que j'écris est bien. Quand j'ai un regard extérieur, ça me va mal. Alors c'est vrai qu'écrire, comme je disais, écrire à quatre mains, c'est idéal. Parce que là, vous l'avez automatiquement, le regard extérieur. Après, je veux dire, on écrit comment ça? Les ateliers d'écriture aussi, c'est des choses qui sont très bien. Et après, je crois qu'il faut lire les autres. Hein. C'est, à mon avis, c'est à la base de l'écriture, c'est lire tous les autres, tous les styles possibles et imaginables. Ne pas se contenter de lire que de la fantaisie, voir ce qui se passe aussi ailleurs. Je sais que moi, je lis, mais de plus en plus, je lis d'autres choses que la science-fiction, du fantastique ou la fantaisie pour voir ce qui s'écrit. J'ai découvert, il n'y a pas longtemps, Paul Auster. Pour moi, il y a 10 ans, c'était quelqu'un. Et j'ai découvert un autre style d'écriture, qui ne me correspond pas, mais j'ai découvert un autre. Peut-être que je m'en servirai dans un prochain livre. C'est pour ça, je pense que le mieux, c'est d'abord de lire.
Ça a l'air de marcher pour lui.
Ah oui, ça marche mieux pour lui. Non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que moi, je ne connaissais pas, que de nom, et j'ai découvert autre chose. Et je pense que la lecture me permettra d'affiner mon style.
Alexandra, est-ce que vous, vous envisagez l'écriture à plusieurs ou pas du tout?
I actually just started a new series called Bayou Heat Series, and I work with another author. I write an anthology, a short story, and then she writes the next short story, and we trade off. And it's been a learning process. Like you said, most writers work alone for so long that working with another person has been a very wonderful experience because I get to bounce ideas off each other. So she comes up with an idea, I come up with an idea, and we bounce it off each other, and then it's a new idea that neither of us would have thought of before. So it's been re-energized my writing to write with someone else.
Je travaille en ce moment une nouvelle série avec un autre auteur. Donc c'est une première expérience pour moi, j'ai toujours travaillé toute seule auparavant. Et maintenant nous travaillons à deux. En fait, nous créons une sorte de recueil de nouvelles. Elle en écrit une et puis j'écris la suivante. Et donc c'est comme ça que nous procédons. Donc j'ai toujours travaillé toute seule avant. Et je veux dire que c'est quelque chose que je découvre, le travail à deux. Et c'est vraiment extraordinaire parce que ça me donne énormément d'énergie. Nous sommes appelés à confronter nos idées. Et en confrontant nos idées, nous créons de nouvelles idées. Donc c'est un processus extrêmement créatif et en même temps générateur d'une nouvelle énergie.
Yvan, atelier, ça se passe comment? On se met tous en commun, on écrit tous ensemble?
Le principe est assez simple, c'est-à-dire que chacun écrit de son côté et puis on s'échange des textes. Et puis une fois de temps en temps, on doit apporter des corrections assez poussées au niveau du style et puis au niveau de tout ce qui est du sens. Et puis on en discute, on se voit et on en discute. Donc les échanges sont souvent très intéressants. Mais pour le style, c'est vrai que c'est bien parce qu'on voit qu'on s'améliore, qu'on comprend un peu mieux aussi le style des autres. On s'influence un tout petit peu les uns les autres. Et ce que j'aime bien, c'est que dans mon atelier, il y a des personnes qui font de la littérature de genre, enfin, fantasy, fantastique ou science-fiction. Et puis j'aime bien leur rapport avec les personnages est très différent. Et puis c'est vrai que ça donne des idées. D'élargir son champ imaginaire des possibles, exactement. Et donc ça c'est bien, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai toujours travaillé seul sur mes bouquins, enfin au moment les imaginer, au moment de l'écriture, je suis tout seul, et c'est vrai que ça j'aime assez bien pouvoir faire mon truc, je trouve assez bien pour l'instant, peut-être ça changera effectivement, mais j'ai encore des choses à faire tout seul dans mon coin avant de travailler avec d'autres peut-être.
Karina, des projets à deux?
Oui, justement, là, on a commencé une série avec un auteur. Elle est de langue anglaise, elle. Donc, elle écrit. Moi, j'écris un chapitre en français et on s'est réparti les rôles. Elle écrit le point de vue du personnage féminin et moi le point de vue du personnage masculin. Et en fait, moi, j'écris d'abord en français, mais ensuite, je m'applique à traduire en anglais ce que j'ai écrit, ce qui n'est pas facile. voilà, et comme ça, je lui envoie le premier chapitre que j'ai écrit en anglais, et elle continue en anglais, et elle n'a pas de traduction à faire. Du coup, je suis capable de lire ce qu'elle écrit, c'est plus simple. Voilà, donc c'est assez excitant comme projet, parce que, comme le disait Alexandra, c'est vrai qu'on a nos idées qui vont et qui viennent, et puis... d'un seul coup, il y a tout qui surgit, c'est comme si toutes les pièces du puzzle s'imbriquaient et qu'on a l'image et on se dit « Ah, c'est encore mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer ». Et puis pour moi, c'est intéressant de travailler aussi avec un auteur étranger parce que c'est pas tout à fait les mêmes méthodes. Elle en a déjà parlé à son agent qui attend 10 chapitres pour pouvoir commencer à démarcher. Enfin, c'est vraiment un univers complètement différent de l'univers de l'édition française. Donc c'est une expérience... que j'ai hâte de voir avancer pour voir jusqu'où elle va nous mener.
un sujet qui touche tous les auteurs, qu'ils soient français ou américains, et qui, justement, on parlait de la solitude de l'écrivain. Est-ce qu'on n'est pas face à une situation où vous êtes tous beaucoup plus confrontés à vos lecteurs que n'ont pu l'être les auteurs qui n'ont pas connu Internet ou qui ont publié sans avoir de réseaux sociaux, sans avoir de retour, de feedback aussi immédiat de la part des lecteurs? Est-ce que ça change votre façon d'écrire, Philippe?
Changer la façon d'écrire, je ne sais pas. Changer la vie, oui. C'est-à-dire, pour en avoir discuté avec beaucoup des auteurs, des anciens auteurs du Fleuve Noir, qui eux étaient dans leur coin, qui ne voyaient jamais leurs lecteurs, puisque les salons n'existaient pas, je veux dire, dans les années 60, 70. Ils étaient dans leur coin, ils écrivaient, et bien c'était leur métier, ils écrivaient à la Kalachnikov, ils écrivaient 1, 2, 3, 4, et sans se soucier presque du lecteur. En sachant que leur livre allait être vendu à 40 000 exemplaires à l'époque, ce qui nous fait tous rêver, et sans rien. Et depuis, je veux dire que. Moi, je veux dire, j'ai connu un peu les deux, mais c'est-à-dire que la génération Internet, je veux dire, je ne parle même pas de Facebook, mais rien qu'Internet, les mails, les salons et tout ça, c'est vrai que maintenant, on peut discuter avec le lecteur. Changer l'écriture, non, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas le lecteur qui va nous faire changer notre style ou changer l'histoire. Il va peut-être nous apporter une idée, ou il va nous dire, tiens, là, c'était pas bon, et c'est vrai, il a des raisons, mais après, non. Mais c'est vrai que ça nous change la vie. C'est-à-dire que moi, il y a 20 ans, je veux dire, on n'avait que le Minitel et on ne connaissait personne. Maintenant, je veux dire, je reçois, même en tant qu'auteur, maintenant, vous n'aviez plus un manuscrit par la poste. Vous l'envoyez par mail. Vous gagnez pas mal d'argent. Donc c'est vrai que toute cette technologie change complètement l'auteur. Pas son écriture, mais je veux dire, sa façon d'être édité, sa façon de voir. Sa façon de travailler aussi, mais pas son écriture. Pour moi, je ne pense pas.
Karina, oui, moi je suis très présente sur les réseaux sociaux, mais j'adore ça, discuter avec les lecteurs. Je trouve ça super sympa. Puis c'est vrai que ça me sort de chez moi, hein, parce que sinon c'est ça, j'écrirais dans mon coin, l'ermite dans sa cave, hein, avec ses chats. Et là au moins ça me permet dans la journée d'avoir des gens avec qui parler, d'avoir un retour sur les livres, savoir si les gens ont aimé ou pas. S'ils sont prêts à nous accompagner pour d'autres aventures, c'est important. Et d'avoir un contact avec les gens là, voilà, avant de venir ici aujourd'hui, les lecteurs savent que je suis là, je sais que je vais les retrouver dans la bulle du livre et on va être contents de se voir ou de se revoir. Et il y a des vrais contacts qui sont, et parfois même presque des amitiés avec des lecteurs, parce qu'on commence à engager une conversation, un dialogue qui est important. Et je pense que oui, ça a changé Internet, moi aussi. Le projet que j'ai avec l'auteur avec qui je suis en train d'écrire, elle habite à Londres. Je pense que sans Internet, le projet ne pourrait pas du tout voir le jour. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous sort, qui nous sort de nos livres et qui nous permet d'avoir une vraie ouverture sur le monde. Nous qui pouvons avoir une vie très renfermée, où on n'a pas de collègues, on ne va pas au bureau, on n'a pas d'horaire. Voilà, ça aide à s'ouvrir, à ouvrir la fenêtre et voir qu'il y a du monde dehors.
Yvan, est-ce que c'est déjà une interface avec les lecteurs super vivante ou pas encore?
Pas encore tellement pour moi. Alors, j'ai pas eu beaucoup de réactions en ligne, des critiques, oui, et puis là on apprend qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a moins plu. Et puis ça, c'est intéressant après de pouvoir faire la différence avec les avis qu'ont donné les connaissances. Comme j'ai peut-être vendu 400 exemplaires de 33e itération, la moitié c'est à Lausanne, d'où je viens, et la moitié, enfin, c'est des gens que je connais plus ou moins, et puis c'est plutôt je les croise en soirée, puis ils me disent qu'ils ont bien aimé, ou qu'ils me disent qu'il leur a déplu, et c'est assez intéressant. C'est vrai que par rapport à Internet, pour l'instant, il y a eu des critiques, des bonnes critiques, et puis quelques-unes qui étaient un peu moins bonnes, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on apprend des choses, des avis des autres, et puis c'est vrai aussi que l'atelier sans Internet, ça aurait été très différent, ça aurait été plus compliqué. Là, c'est vraiment tellement simple que, ça rend tellement simple qu'on peut faire les choses, on peut permettre ces échanges, et c'est très pratique et très bénéfique.
Alex, son frère, je sais que les femmes de littérature d'urban fantasy sont très très actives et actives sur les réseaux sociaux. Et qu'elles constituent un fandom très important. Alors, est-ce que ça change votre façon de publier une série comme la vôtre, ou est-ce que vous mettez en avant des personnages parce que les fans vous ont dit on voudrait voir l'histoire de celui-là?
Yes, my next book that I'm writing was just a secondary character that the fans actually just demanded have a book. And I think that the internet, because of Facebook and social networks, I can be active with my French readers and my German, you know, where I could never have been before. And I think more importantly, it hasn't changed my writing, but it's changed publishing. I think when I first started, the publishing houses decided what readers wanted, and now readers decide what readers want and what needs to be published. So I think it's changed publishing overall, not just for writers, but especially for publishers.
Alors personnellement, oui, parce que le livre sur lequel je travaille en ce moment concerne un des personnages secondaires de mes romans, et ce sont mes fans qui m'ont dit « Ah oui, il est temps que tu nous parles de celui-là, que tu lui consacres un roman en entier ». Donc voilà, si, ça m'influence énormément. Et l'Internet, les réseaux sociaux me permettent également d'entretenir des liens avec mes lecteurs, que ce soit en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays où je suis publiée. Mon écriture n'a pas été transformée par les réseaux sociaux, mais je dirais que ça a quand même influencé le monde littéraire, en ce sens que avant c'était les maisons d'édition qui imposaient leur choix aux lecteurs, mais maintenant les lecteurs ont leur mot à dire et ils imposent de plus en plus leur choix aux maisons d'édition. Donc c'est en ce sens qu'il y a eu des changements.
Moi, je crois que ce qui a le plus transformé les auteurs, c'est le traitement de texte. Parce que moi, pour avoir commencé mon premier roman, La machine à écrire, je peux vous dire que le traitement de texte, eh bien, ça, c'est bien. C'est beaucoup mieux qu'Internet, beaucoup mieux que les réseaux sociaux. Et ça, c'est une vraie transformation pour l'auteur.
Donc, on peut vous supprimer Internet tant qu'on vous laisse voilà, Word.
Exactement. Je veux dire que j'ai gardé ma vieille machine à écrire, et il y a 2 mois, j'ai essayé, je me suis amusé à retaper, et c'est affreux. Je sais qu'il y a encore des auteurs américains qui travaillent sur des machines à écrire, des anciens auteurs.
Yeah, I write longhand. I write mine out longhand first, and then I type.
Je commence par écrire une version à la main.
À la main, oui, mais pas la machine à écrire, à la main.
Et après l'ordinateur.
Ça a transformé vraiment là. Merci.
L'auteur steampunk dans toute sa. Bon, on a vu les aspects positifs que pouvait avoir sur votre rapport avec les lecteurs, l'existence des réseaux sociaux et d'Internet. Est-ce qu'on peut se demander s'il n'y a pas aussi un aspect négatif, ou en tout cas moins agréable, qui est par exemple celui de la pression? Je pense à quelqu'un qu'on connaît tous comme Martine, Finish the Book George. C'est un blog qui demande à George Martin de finir son... Je ne dis pas le gros mot, livre. Est-ce qu'il n'y a pas une pression aussi des lecteurs? Et puis, autre question, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment où le lecteur étant en contact avec un auteur de plus près, il ne se met pas à croire lui aussi qu'il est un auteur potentiel? Je pense à l'auto-édition, je pense aux facilités d'écrire et de se mettre à publier à compte d'auteur. Est-ce que tout d'un coup, Philippe, vous parliez tout à l'heure de plus d'auteurs que de lecteurs, est-ce que tout d'un coup les lecteurs ne se mettent pas à croire que c'est
Je crois que ça a toujours existé, ça, et je pense qu'il y a une vingtaine d'années, pareil. Je veux dire que je pense que je voudrais leur demander si tous on a un jour ou l'autre eu envie d'écrire. Même si on n'a jamais écrit, tout le monde. Je veux dire que tout le monde un jour a envie d'écrire une histoire. Bon, les moyens modernes, c'est vrai qu'il y a 30 ans, il y avait la machine à écrire, l'imprimeur, ça coûtait très cher, c'était du temps. Maintenant, il suffit d'un petit ordinateur, Internet, et on peut s'auto-publier facilement. Donc c'est peut-être une nouvelle révolution qui arrive, que les auteurs, que les auteurs et les éditeurs vont devoir gérer. Mais c'est vrai qu'il y a moi, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs. Après, on reçoit beaucoup de manuscrits, il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup, c'est malheureux ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de mauvais auteurs. Maintenant, est-ce qu'on peut leur supprimer le droit d'être édité ou s'auto-éditer? Non. Moi, je veux dire, tant pis. C'est la liberté à chacun. Les moyens modernes leur permettent. Je veux dire, il y a 20 ans, ils ne pouvaient pas s'auto-éditer. Ou alors très très cher. Il fallait qu'ils publient, fallait qu'ils aient trouvé un imprimeur qui publie 1000 livres. Ça coûtait à l'époque 20 ou 30 000 francs. Ils ne les vendaient pas, donc ils restaient dans leur garage. Maintenant, je fais un livre en numérique et je le mets sur Amazon. Ça revient à 0 euros. Donc c'est une nouvelle révolution qui arrive, pour, aussi bien pour les auteurs présents que les futurs auteurs. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est comme toute révolution, il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer dans les prochaines années avec le numérique. Je pense qu'il y aura toujours des éditeurs, mais je pense qu'il y aura toujours des auteurs qui vont s'auto-éditer et qui vont faire des malheurs. Mais ça va être peut-être 1 sur 1000, je veux dire, il y a des exemples récents, qu'est-ce que c'est, 50 niveaux de gris, je crois que c'est. Alors, on peut, voilà, ça a marché. Alors, il y en a toujours un, deux, trois qui vont rééditer. Et bien sûr, on va toujours vous dire que Marcel Proust s'est auto-édité. Mais je dirais que pour un Marcel Proust, il y a combien qui sont disparus de la circulation?
Karina? La pression des lecteurs? Non?
Bon, quand même, c'est... Enfin, il faut aussi faire.
Parce que vous écrivez vite, peut-être.
Oui, non, mais puis de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la machine. Et le lecteur, il aura beau réclamer le bouquin, tant qu'il n'est pas fini, il n'est pas fini. Hein, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas. Donc, après, si c'est, l'essentiel, c'est qu'on produise quelque chose qui va leur plaire au final et qui est le meilleur possible. Donc, si ça doit prendre 6 mois pour écrire le bouquin, 1 an, 2 ans, ben, ça prendra le temps qu'il faut. Il ne faut pas se laisser marcher sur la tête. Et puis, sinon, pour des lecteurs qui peuvent, par le rapprochement, se croire auteur, je suis d'accord avec Philippe. Je pense que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de se sentir proche des auteurs pour avoir ce désir en eux. Après, qu'ils soient bons ou pas, qu'ils y arriveront peut-être ou pas, je ne sais rien. Il y a plein de moyens d'écrire et de s'exprimer aujourd'hui. Il y a l'auto-édition, il y a la fanfiction. D'ailleurs, aux États-Unis, là, il y a Amazon qui lance une plateforme où ils vont payer des gens qui vont écrire de la fanfiction sur des licences qui sont autorisées. Enfin bon, c'est toute une nouvelle révolution qui arrive là, qui s'est apparue hier. Et voilà, tout ça, c'est des choses où les gens peuvent s'exprimer. Et puis, comme disait Philippe, on aura toujours des très bons qui vont jaillir, des très mauvais qui arriveront à vendre que à 3 personnes, leurs parents et leurs frères et sœurs, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, s'ils sont contents, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est que les gens soient heureux. Hein.
Yvan, vous qui
avez
commencé par l'auto-édition
Oui, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée l'auto-édition, ça marche pas. L'idée d'avoir un éditeur qui gagne son pain en faisant payer l'auteur pour publier ses bouquins, c'est clair qu'au niveau de la qualité, c'est pas là que va y avoir des miracles. Mais bon, après, effectivement, il y a des choses très bien qui peuvent sortir et puis c'est toujours possible. L'idée, c'est qu'a priori, ça aurait été aussi possible avec un véritable éditeur, mais ça, c'est justement pas toujours le cas. Parce que, ouais, pas pour tout le monde. C'est vrai que moi, j'aime bien faire mon truc. Il y a des gens qui m'ont dit oui. Il y a des gens qui m'ont dit que je devais arrêter de faire de la SF, en fait, parce que d'après eux, c'était un trop petit marché. Ouais, le problème, c'est que moi, ça m'est égal. Je fais mon truc, puis un jour, il y a quelqu'un qui, si je continue et puis que je vais jusqu'au bout de mon idée, que je mets peut-être un certain moment à matérialiser, à écrire correctement. Bah, si je vais au bout, peut-être qu'à la fin, effectivement, il y aura quelque chose, un succès, quelque chose qui sera reconnu comme étant qui m'appartient complètement et puis qui est effectivement de qualité. C'est l'idée. Donc moi, j'écoute, mais c'est vrai que je ne laisse pas, d'autres déterminer la direction dans laquelle je vais. J'aime bien pouvoir m'exprimer. Et puis c'est le but, en fait, quand on écrit, on passe assez de temps tout seul dans son coin pour être satisfait de ce qu'on fait. Enfin, être satisfait, se dire que c'est effectivement personnel comme travail.
Actually, in America, self-publishing is exploded. I mean, it's huge. And so I think for writers and publishers both, you're just going to have to try to stay up with the times. It's a battle every day to try to stay relevant in a world where it changes every single day. So I try to, for people who ask me about self-publishing, I try to encourage them to make sure it's the very best work that they can do, because you usually have one shot with readers if they read your book and it's not ready, and it's they probably won't try you again. If you have a great product, it's going to sell very well. So you will do very well in self-publishing. But for most authors anymore, just to stay relevant, we have to do both quite often, is to do the traditional publishing as well as self-publishing, just to stay with the times.
Aux États-Unis, l'autopublication, c'est énorme. Hein. Il y en a énormément qui se fait. Et pour un auteur, en fait, pour les auteurs et les éditeurs, il faut vraiment vivre avec son temps et évoluer avec son temps. Donc il y a d'énormes changements dans le domaine et il faudra s'adapter. On n'a pas trop le choix. Et pour les gens qui choisissent la voie de l'autopublication, moi je leur dis, il faut vraiment sûr que le produit que vous publiez est le mieux que vous avez pu faire, parce que vous n'aurez qu'une chance, en fait. Si le lecteur vous lit et qu'il n'est pas content, vous n'aurez pas de deuxième chance. Donc il est très important vraiment de faire de son mieux. Mais pour beaucoup d'auteurs américains, l'autopublication et le travail avec l'éditeur vont de pair. Et je pense que c'est quelque chose qui va évoluer au fil des ans et il faudra s'y adapter.
Bien, est-ce que puisqu'on a vu comment passer de l'écriture pour soi, si tant est qu'elle soit pour soi, à la publication, est-ce que il n'y a pas un moment un peu douloureux de lâcher prise quand on a écrit, quand on a travaillé avec son éditeur et quand on a corrigé, est-ce que il y a un moment difficile qui est celui où le livre vit sa vie et rencontre ses critiques, bonnes ou mauvaises, rencontre ses lecteurs ou ne les rencontre pas d'ailleurs? Voilà. Comment est-ce que vous vivez ce moment-là, ce dernier moment avec, vous êtes en relation directe avec le lieu.
C'est très excitant comme expérience de publier enfin son bouquin. Des fois, ça fait quand même pas. Souvent, ça prend du temps quand même. C'est pas, ça n'arrive pas par surprise. On se prépare, on travaille, on retravaille. Au bout d'un moment, on a un peu marre de travailler, mais ça tombe bien, c'est fini. Et donc. Donc il y a ce côté où on est content d'arriver au bout, et puis ensuite c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée que des gens me lisent et puis me donnent leur avis. C'est vrai que des fois on peut voir des lecteurs qui n'ont pas compris, qui s'attendaient à autre chose peut-être, et puis on est un peu triste que ça n'ait pas plu, mais ça, c'est normal, je sais pas, ça fait partie du jeu, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça paraît un peu bête à dire, mais enfin des fois un peu plus compliqué à intégrer, mais c'est juste, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis en même temps, ben, du moment qu'on a pu plaire à certains, c'est déjà génial.
Mais la première fois qu'on tient son premier roman édité, publié, on est le roi du monde. On est vraiment le roi du monde. Quand on voit la première critique positive, on est encore plus roi du monde. Quand on le voit dans une librairie, on est le roi du monde. Normalement, moi, je veux dire, après mon expérience à Roland, je dis toujours à mes auteurs, mes premiers auteurs, les premiers romans, je leur dis, vous prenez la chanson de Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche, et vous l'écoutez en boucle. Parce que comme on dit, on peut chuter. Je veux dire que, toujours ma papa Robin, j'ai l'expérience depuis 30 ans que je suis dans le milieu, j'ai vu beaucoup d'auteurs, je veux dire, j'appelle ça, c'est comme l'océan à la marée, il y a des auteurs qui arrivent à un moment donné en haut, et puis des pires descendent au fond. Et je veux dire que ça, c'est très dur aussi. De redescendre au fond et de se retrouver au fond alors qu'on a été à un moment donné en haut, qu'on a eu ses livres. Je veux dire, pour en avoir connu, pour en discuter avec beaucoup d'auteurs, c'est très dur de remonter après. Et donc, il faut toujours rester calme, il ne faut pas se voir qu'on n'est pas le. C'est que je vais dire. Fâcher personne. Stephen King, Musso, Bernard Verbet. Donc voilà, il faut savoir aussi rester à son niveau. Quitte à monter aussi, mais c'est très dur. Je veux dire, pour avoir connu des auteurs qui sont retombés du pas, qui n'ont plus publié, pour eux c'est très dur. C'est très dur de ne plus avoir de lecteurs, de ne plus avoir d'éditeurs, de ne plus avoir personne, alors qu'ils ont publié 30, 40 livres. Quand je disais tout à l'heure, les premiers auteurs du Fleuve Noir, oui, ils publient 50 000 exemplaires. En France, à l'époque, 60-70, c'est bon. Quand vous arrivez en France maintenant à 1000 exemplaires, certains éditeurs sortent le champagne. Donc c'est vrai que si je conseillais aux auteurs, là, je leur dirais plutôt de devenir chanteur de rap, ça paye mieux.
On peut pas faire les deux
Non, quand on est chanteur de rap, on est content. Donc c'est vrai qu'il faut toujours, on va dire, la raison garder. Donc c'est voilà ce que moi je dis. Et c'est vrai que moi aussi, il y a 20 ans, je me suis vu en haut de l'affiche, pareil. Maintenant, je sais que j'écris, quand un livre est publié, mais je dis ça c'est bien, au moins j'ai fait ça. Même s'il a 500 000, c'est pas grave. Mais au moins il a trouvé un éditeur, il est publié. Je ne vais pas aller chercher plus loin la fortune ou la gloire. Il y a l'euro million pour ça.
Alex Romain, on pourrait croire que éditer une série, c'est peut-être plus facile, ou en tout cas de se maintenir avec sa quantité de lecteurs qui apprécient et qui vont acheter le tome suivant. Est-ce que c'est pas une facilité fictive?
Yes, very good. And all of I have a series and. But each one can be read alone, can be a standalone book. But the characters go from one book to another. So I have readers who will go with the books because they've been just committed to the stories. They're committed to the characters in the stories. So and even sometimes they'll buy a book at the end of the series, but go back. And then by the beginning, so this is a very nice series are a very nice way to write.
Oui, la série c'est toujours agréable pour ça. Et donc dans la série, il y a plusieurs tomes, mais on peut lire chaque tome individuellement. Donc les personnages, on retrouve les mêmes personnages dans chacun des tomes, mais on peut tout à fait commencer par la fin et revenir en arrière. Il y en a qui le font d'ailleurs, qui achètent un des livres du milieu de la série ou à la fin, et qui vont ensuite acheter les autres. Donc oui, la série c'est très agréable pour ça.
J'écris pas des longues séries moi.
Non mais sur le lâcher prise.
Non, lâcher prise. Non, je pense que oui, c'est excitant quand on voit son premier livre publié. Mais moi, j'ai toujours un petit pincement au cœur par rapport à mes personnages, de savoir que je vais les quitter. Mais j'ai pas d'inquiétude quant au livre qui aura sa vie propre après. Je pense qu'à moins de savoir lire dans les boules de cristal, ni l'éditeur ni l'auteur ne peut savoir si un livre va marcher ou pas. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui va cartonner et devenir un best-seller et celui d'à côté qui pourrait plaire autant, qui ne marche pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique pour faire des livres. Donc l'essentiel, c'est de prendre plaisir à faire ce qu'on fait sans essayer d'anticiper sur ce qui sera ou ce qui ne sera jamais. À mon avis, c'est le meilleur moyen de continuer à éprouver du plaisir sans se trop stresser. Alors évidemment, après, quand ça marche bien, on est toujours content. On ne va pas dire le contraire, hein, ce serait hypocrite. Mais y a toujours une déception si jamais le livre ne marche pas. Mais je pense que le tout, c'est de continuer à avancer sur son petit chemin et puis prendre du plaisir, essayer d'en offrir à ceux qui vont lire le livre et qui vont l'apprécier. Et après, on verra où la vie nous mène. Je pense en effet que c'est pas forcément un plan de carrière à long terme d'être auteur. Je suis pas sûre qu'on puisse tenir 50 ans comme dit Philippe en haut de l'affiche avec que des succès. À mon avis, voilà, il faut prévoir d'autres choses à côté au cas où.
Et bon, c'est ce qu'il va falloir faire alors. Donc.
Ah, bon, de mon côté, je travaille à 80%. Donc c'est vrai que c'est pas, j'avais fait des études, j'avais peur du jour où mon papier deviendrait obsolète, donc je me suis mis à chercher du travail, de toute façon il fallait bien gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, et puis ça c'est donc ça. Après je regrette de ne pas avoir assez de temps pour écrire, chaque chose en son temps, on verra par la suite, mais je continue à travailler régulièrement, donc je continue à avoir du plaisir, à souffrir aussi beaucoup. C'est le jeu, c'est comme ça que c'est intéressant.
L'un d'entre vous a quelque chose à rajouter sur ce passage à la publication? Une petite question peut-être?
En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt deux petites contributions. Vous avez parlé de roman, et pour se faire la main en tant qu'aspirant écrivain, il y a la nouvelle aussi. Alors la nouvelle peut être refusée comme le roman, et elle est refusée d'ailleurs, mais ça demande moins d'investissement. Et on peut se apprendre à écrire en écrivant de la nouvelle.
Philippe, il y en a beaucoup.
Je crois que la nouvelle demande autant d'investissement qu'un roman. Je crois que c'est plus facile d'écrire un roman qu'une nouvelle. Pour avoir écrit les deux. Un roman, vous avez 200 pages, vous pouvez y aller, franchement. Lisez les nouvelles de Frederick Brown, c'est un paragraphe, et bien, je serais incapable d'écrire. Je pourrais écrire un roman de Stephen King, 2000 pages, mauvais, mais j'en serais capable. une nouvelle d'un paragraphe, je serais incapable. Donc c'est vrai que pour moi, la nouvelle, c'est un bon investissement pour l'écriture. Il y a beaucoup plus de possibilités d'édition parce qu'il y a des appels à texte et beaucoup de choses. Mais pour moi, je dirais qu'écrire une nouvelle, c'est difficile.
Oui, c'est vrai. Enfin, personnellement, j'ai du mal à dépasser 8 pages en nouvelle. Autre chose, justement, pour apprendre à écrire, il existe aussi des forums d'écriture. Et là, je vais faire la publicité pour un forum qui est spécialisé dans la science-fiction, la fantasy et le fantastique, qui s'appelle Cosiclix. Je ne sais pas s'il y a du monde dans la salle.
Cosiclix.
Cosiclix.com. Mais c'est un francophone. C'est limité aux francophones. Et donc, sur ces forums-là, vous avez ce qu'on appelle la bêta-lecture. La bêta-lecture, en fait, le principe, c'est collaboratif. Vous posez votre texte, des gens du forum vont le lire, le critiquer, le décortiquer, le démonter, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et vous le dire.
On est sur le principe de l'atelier d'écriture.
Un peu, sauf qu'il n'y a pas ce travers qu'il y a dans certains ateliers d'écriture, qui est que là, ça y va. Quoi. On n'est pas là pour s'auto-congratuler, c'est-à-dire qu'on est les meilleurs, mais au contraire pour relever ce qui va, ce qui ne va pas, progresser. Donc on pose un texte qui va critiquer, et soi-même, en échange, on va critiquer les textes des autres. Donc c'est du hack, en fait, mais du hack de texte. On démonte, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, et l'auteur progresse comme ça. Et, sur ce forum, justement, l'essentiel de la bêta-lecture, c'est de la nouvelle, oui, mais il y a aussi des sites pour des romans. Donc c'est cosiclix.com.
Oui, ils ont des partenariats avec plusieurs éditeurs.
Oui, une autre question, et puis on va s'arrêter, parce qu'on est en retard.
C'est plus par rapport à Alexandra et par rapport au niveau des universités américaines. Là, il y a des cursus qui sont faits pour justement apprendre l'écriture ou des choses comme ça. Des choses qu'on ne trouve pas en France. Et qu'est-ce que ça apporte réellement dans le milieu littéraire des États-Unis, ce type de cursus ?
Donc, les études pour devenir auteur aux États-Unis.
Il y a des cours pour écrire des cours.
I took playwriting, so I didn't do the fiction writing, but they do have some very good courses, and I think they even have them online now, but the one book that I did read but when I was starting to write was the Stephen King's book of craft writing, it's a very good book, just the basic, get yourself, sit down and write, you know, but that's the one book that I did read that I liked a lot, but I didn't take any creative writing classes, I did the playwriting classes, so, and that's how I still write my books in playwright, so.
Dans mon cas, c'est un petit peu différent parce que moi, j'ai étudié l'écriture pour le théâtre, donc j'ai trouvé que c'était exactement très, très positif aussi pour moi, mais parce que j'écris toujours comme ça, je commence toujours comme ça mes romans. Mais il existe d'excellents cours d'écriture dans des universités américaines, il y a des cours en ligne également. Le livre qui m'a le plus influencé, si l'on veut, en ce sens, c'est un livre que Stephen King a écrit sur la manière d'écrire. Donc il explique qu'il faut s'asseoir et écrire, et puis c'est tout. Donc c'est le livre qui, moi, m'a le plus influencé. Et je dois dire que, en fait, personnellement, bon, mon écriture a été d'abord pour le théâtre, et je continue d'écrire comme ça.
Bon, et bien merci à tous ces auteurs qui se sont fait publier, donc, et à bientôt.